Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Bon alors, comment ça va alors ? The Economist, je sais, hein, nous annonce une crise alimentaire et la famine dans le monde. Il y a des restrictions d'eau dans une partie de la France. Il va falloir travailler jusqu'à 70 ans pour toucher sa retraite. Après le Covid, on va avoir droit à la vérole du singe. Personne ne vous a appelé pour faire partie du gouvernement. Et en plus, les prix flambent. Voilà pour les mauvaises nouvelles, mais moi j'ai trois bonnes nouvelles. C'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission exceptionnelle parce qu'on va traiter de tous les sujets qui ont marqué l'actualité de cette semaine, qui ont un impact sur votre argent. On va le faire sans langue de bois. J'espère qu'il y aura quelques bons coups de gueule, mais vous le savez maintenant, pour une émission exceptionnelle. Musique, hein. Il faut des invités exceptionnels. J'ai donc l'immense plaisir de vous présenter nos Jedi de l'économie et de la finance. Il cumule des titres très impressionnants, jugez plutôt, hein. Directeur à l'OFCE et membre, tenez-vous bien, du Haut Conseil des Finances Publiques. Waouh ! Il m'a prévenu avant l'émission qu'il devait laisser son portable allumé. Elisabeth Borne pouvait l'appeler à tout moment pour lui proposer un poste. Éric Heyer, vous n'avez pas de...
Non, pour l'instant, non.
Mais bon, vous avez bon espoir. Ah. L'homme est un grand gérant, par la taille d'abord, mais également par le talent et par les performances de ses fonds. Aux premières émissions de C'est votre argent, il avait le titre de stagiaire dans sa boîte. Aujourd'hui, lui, de fait, ça a renversé tout le monde. Il est directeur des gestions chez Gay-Lussac Gestion. Ça a été un massacre. Ouais, en quelques années.
C'est grâce à vous, ça marque. Ouais, je ne remercierai jamais assez. Quoi.
Oui, c'est l'école des gens aux dents longues.
Ouais, ça monte.
Il a fait la course en tête, hein, dans le trio de tête. Des gérants de 2021. Bon,
2022, je suis sous la table.
Il connaît le monde. Bon, en tout cas, on peut dire que vous connaissez le monde des petites valeurs par cœur. Ouais, ça n'a pas changé. Ouais. Éric Lewin, vous êtes rédacteur en chef des publications Agora. Vous nous rappelez ce que c'est ?
Bah, ce sont des lettres confidentielles. C'est un groupe américain qui fait plus $1 milliard de chiffre d'affaires.
Waouh.
Aux États-Unis, nous, on doit faire une dizaine de millions d'euros en France et on a des lettres confidentielles sur les marchés avec du conseil boursier essentiellement.
Et elles sont très confidentielles ou pas ?
Il y a pas mal de lecteurs, même si en ce moment, avec la baisse des marchés, c'est un petit peu plus compliqué quand même.
Elle a fait récemment une entrée fracassante dans le club des économistes et stratégistes de C'est votre argent. Et depuis, elle est devenue tout simplement indispensable.
Merci.
C'est vrai. Valentine Hédouze, vous êtes responsable adjointe. Pourquoi adjointe ? Faut le virer, là. Ah non, je supporte pas, là. On peut pas avoir des adjoints ici, nous. Il n'y a pas d'adjoints ici, il n'y a que des patrons. Hein. De la recherche et stratégie des marchés développés chez Amundi, vous nous donnerez son nom, on va s'en occuper. Allez, on attaque tout de suite sur le nouveau gouvernement. Ouais, en fait, j'ai fait ce thème-là juste pour pouvoir faire la blague de la chanson Born to Be Alive, qui est totalement nulle.
C'est votre jeunesse, Patrick Hernandez, en plus.
Ah bah ouais. Ah bah j'ai dansé là-dessus. Ouais. Ah ouais, j'ai fait des trucs incroyables là-dessus. Je ferai le pas de danse tout à l'heure. Le chômage est au plus bas depuis 2008, 7,3%. C'est bien même si les autres grandes puissances économiques sont en situation de plein emploi. Notre nouveau boss, avec un E, va être confronté au problème du pouvoir d'achat, de la transition énergétique, des réformes avec la réforme des retraites pour commencer. Alors Éric Heyer, comment va l'économie française et qu'est-ce qu'on peut attendre d'un Macron 2 ou de Borne 1 ?
D'ailleurs, j'ai envie
Macron
de
2 ou oui, Borne 1 ?
Mais j'ai envie de reprendre la
voie.
Toutes les grandes économies développées sont au plein emploi.
Ouais. Vous allez me sortir l'Italie, le Portugal et l'Espagne.
Et oui, mais alors, c'est d'accord. Pas des grandes puissances ?
Dans les grandes puissances, je mets les États-Unis.
D'accord.
Je mets le Japon, 2,6%. Okay. Je mets, si vous me permettez, la Chine. Okay. Je mets le Royaume-Uni quand même. Okay. Bon, et je mets la France, quoi. Bon, après, il y a d'autres pays, mais dans ce groupe de. Après, on peut décider de faire partie du tier 2, de la catégorie.
Mais aussi, regardez la zone euro. Vous voyez, la zone euro est à 7% de chômage. Nous sommes à 7,3%. Bon, allez, c'est à peu près pareil. D'accord. Et il y a les pays du Sud. L'Italie, je suis désolé, c'est une puissance qui est aussi importante que la France, quasiment, en termes de PIB. Bon, ils sont à 9,5%. L'Espagne est à 14%.
Donc vous dites c'est bien.
Non, je dis moyenne. C'est-à-dire qu'il y a des pays du Nord qui sont en plein emploi, il y a des pays du Sud qui sont en chômage de masse, et nous, on est dans une moyenne. européenne.
C'est moyenne tout. Européenne, mais vous êtes d'accord pour dire quand même, Japon, oui. États-Unis, oui, tout ça, ça fait beaucoup quand même. Allemagne.
Oui, mais on a la même monnaie, vous voyez, on n'a pas une banque centrale, donc c'est
important. On a la même monnaie que l'Allemagne aussi.
Oui, d'accord. Oui. Et que l'Italie, ouais. Et que l'Espagne. D'accord. Non, mais voilà. Bon, enfin, non, c'était juste.
Donc 7,3%, okay. C'est mieux.
C'est mieux.
Moi, je suis d'accord.
Oui, non, c'est mieux.
C'est pas bien.
Non, mais c'est mieux. Non, bien sûr que c'est pas bien et qu'on peut faire mieux. Et je pense qu'aujourd'hui même, c'est un peu surcoté. C'est-à-dire qu'on n'est pas réellement à 7,3. C'est-à-dire que quand vous regardez pourquoi on est à 7,3, c'est qu'il y a eu énormément de création d'emplois. Mais alors, il faut expliquer comment on peut créer autant d'emplois. On est à 400 000 emplois de plus qu'avant la crise, alors que l'activité est à peu près revenue au niveau d'avant-crise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises ont besoin de beaucoup plus de personnes pour produire
faire la même chose.
Ben, c'est un peu étonnant.
Et donc?
L'explication,
c'est quoi?
Alors, il y a trois explications possibles. La première, c'est que, en fait, les entreprises aujourd'hui ont de la rétention de main-d'œuvre, gardent de la main-d'œuvre parce qu'il y a des carnets de commandes qui sont pleins à craquer. Il y a des problèmes d'approvisionnement. Mais dès que ces problèmes d'approvisionnement vont s'arrêter, il va falloir produire beaucoup. Et il y a des difficultés de recrutement. Donc, si elles devaient se séparer aujourd'hui, d'accord. Elles auraient des difficultés pour recruter. Mais
Elles épargnent.
Exactement. Mais ça veut dire que la croissance demain sera très peu riche en emploi. Et donc, la baisse du chômage sera beaucoup moins rapide. Vous voyez, si a repris la croissance. La deuxième explication, c'est les entreprises zombies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a à peu près 60 000 entreprises qui auraient dû faire faillite pendant cette crise, qui n'ont pas fait faillite parce qu'elles sont encore aidées. Et là, elles maintiennent en leur sein des effectifs. Mais ça aussi, ça ne va pas durer.
On a une idée du nombre d'emplois que ça représente ou
non.
Pas du tout. C'est des petites boîtes.
C'est plutôt des petites boîtes. C'est pour d'accord. Ça que c'est
pas significatif.
Non, c'est pas significatif.
À 60 000, ça devient pas mal. Ah
ouais. Une troisième explication, c'est qu'il y a des gains de productivité négatifs. Alors, si c'est ça, alors là, les augmentations de salaire, il faut les oublier parce qu'on ne peut pas augmenter les salaires avec des gains de productivité négatifs. Donc, vous voyez, là où je veux en venir. Et la quatrième explication, c'est qu'on a subventionné énormément d'emplois. Évidemment. Chez les jeunes, et c'est l'apprentissage. On est passé de 400 000 apprentis à quasiment 900 000. Donc, vous voyez, vous avez énormément, parce qu'on a mis une prime exceptionnelle de 8 000 euros. Mais dès que cette prime exceptionnelle, normalement au mois de juin, s'arrête, il est possible que...
Ah, vous n'êtes pas très positif sur
l'économie. Donc, du coup, non, oui. Pas très positif. De ce point de vue-là, on peut dire que, attention, la baisse du chômage, c'est une très bonne nouvelle. Hein, mais attention, ça ne veut pas dire que ça va continuer à baisser comme cela. Je pense qu'au contraire, c'est un peu surévalué.
L'économie française et ce qu'on peut attendre du prochain gouvernement en termes de... Est-ce qu'on a les moyens de faire tout ce qu'on a dit qu'on allait faire, de faire des aides, de distribuer de l'argent, de faire plaisir à tout le monde?
Alors non.
Non.
Non, non. Et déjà, ce gouvernement, il va démarrer dans un environnement qui est extrêmement difficile. Je suis comme vous, je m'enthousiasme pas trop devant ces chiffres sur l'emploi. On est dans un environnement où la croissance est atone. On a 0% de croissance au premier trimestre et où on a de l'inflation. Et aujourd'hui, la France... L'Europe fait face à deux chocs exogènes extrêmement violents. On a la guerre en Ukraine et les mesures de confinement en Chine extrêmement strictes à cause de la politique zéro Covid. Et ces deux chocs exogènes ont pesé sur la croissance et accéléré les tensions inflationnistes. Donc nos entreprises aujourd'hui en France, mais en Europe aussi, font face à une hausse très significative de leurs coûts de production. L'indice des prix à la production a augmenté de 37% sur un an, c'est considérable. Et les ménages aujourd'hui font face à un recul de leur pouvoir d'achat. Et dans cet environnement difficile.
Ça nous plombe le moral, hein.
Non,
pas du tout. Je vais mettre en place les vrais défis que vont devoir faire face ce gouvernement. On est déjà à la base, on démarre dans un environnement qui est difficile. Économiquement, socialement, cet environnement est délicat.
Ok.
Une
balle, là.
Non, pas du tout.
Tout de suite.
Délicat, mais ça va être compliqué à gérer. Le point important, c'est que ce gouvernement fait face aujourd'hui à des défis importants pour notre croissance à moyen terme. Il va devoir investir pour financer la transition vers une économie plus verte, mais aussi pour essayer de réduire le manque de dépenses qu'on a eu pour la numérisation, la digitalisation au cours de la dernière décennie. On a beaucoup moins investi.
Ouais, mais ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles.
On va devoir investir.
Ça, c'est des bonnes nouvelles.
C'est des bonnes nouvelles. On va devoir investir, mais on a des niveaux de dette aujourd'hui qui sont élevés. Donc, le retour de l'inflation sonne un peu le glas des politiques monétaires ultra-accommodantes et des politiques budgétaires ultra-expansionnistes. Le défi pour notre gouvernement aujourd'hui, ça va être l'efficacité budgétaire. Ils ne peuvent pas réduire les dépenses, mais on va devoir maintenir des niveaux d'investissement importants. Donc, il va falloir être très efficace dans la dépense budgétaire.
Éric Lewin, vous qui êtes très proche des milieux politiques. Je rappelle que vous êtes maire de Neuilly. Hein.
Non, conseil municipal, arrêtez de dire des choses comme ça. Si le maire de Neuilly voit l'émission, je suis mort là. Moi, je vois beaucoup de boîtes en ce moment et je trouve quand même qu'il y a un grand décalage par rapport à il y a trois mois. On sent vraiment qu'elles sont contraintes sur leurs coûts de production. Il y a tous les secteurs, vous voyez, des Boiron dans la pharmacie, des Manitou dans les chariots élévateurs, des Actia dans les composants. On sent vraiment qu'ils se disent que leur marge risque de baisser au cours des prochains mois. Et ça, on n'avait pas ça du tout avant. Ils se disaient non, finalement, ça va aller. Et avec la guerre Ukraine-Russie, il y a vraiment ce sentiment différent. Et d'ailleurs, quand vous regardez les indices, je parle de bourse 15 secondes, le CAC Small, le CAC fait moins 11 depuis le début de l'année, le CAC Small fait moins 13,5 parce que justement les investisseurs sortent de pleine poche, notamment dans l'industrie où on se dit que finalement ça risque d'être beaucoup plus difficile et on a en plus des défaillances d'entreprises, même si on était à un niveau très bas, qui ont progressé 35% au premier trimestre. Donc attention sur le tissu des.
On était à zéro.
Oui, d'accord, mais c'est quand même une donnée.
C'est un peu ce qu'a expliqué Eric, c'est-à-dire qu'on a protégé toutes ces boîtes.
On a protégé, attention quand même au tissu des ETI et des PME qui risquent quand même d'être ébranlés par tout ce qui se passe.
Louis, vous ressentez la même chose?
Non. Moi, on a vu pas mal de sociétés aussi récemment et ils nous disent tous que là, ça arrive, le mal. Parce que là, le premier trimestre, les chiffres en France, la consommation est encore bonne. Pourquoi? Est-ce qu'il y a vraiment le bouclier fiscal? Rappelez l'échec Macron pour l'essence, etc. Et là, l'inflation, même Carrefour aussi l'a dit, il n'y a toujours pas eu de down trading qu'on a pu avoir. Donc, c'est-à-dire que des gens qui révisent à la baisse leur achat sur des produits d'entrée de base et ce n'est pas encore arrivé. C'est qu'une société comme Steph, donc, qui fait dans la livraison et le transport de produits frais, nous a dit pareil, mais attention, ça va arriver. Clairement, donc c'est déjà le cas dans les autres pays, comme dans les autres pays de l'Europe, l'inflation est déjà arrivée. Et là, ça va clairement arriver dès le deuxième trimestre, troisième trimestre. Donc c'est vrai qu'aussi, il faut oublier qu'il y a des effets de base qui vont être très difficiles en France, parce que rappelez-vous, il y avait le Covid, c'était exactement terminé il y a un an. Et donc là, tout le monde a fortement consommé l'année dernière, donc on va avec des effets de base assez compliqués. Donc c'est vrai que le nouveau gouvernement, bon courage pour le T2, T3, avec des primes Macron, on avait parlé de la prime essence qui devrait peut-être s'arrêter fin juillet.
Ce serait temps.
Tout ça va être un peu compliqué à gérer. Donc je pense que s'il ne veut pas avoir des gilets jaunes pour entre septembre et décembre, bon courage au gouvernement pour trouver des solutions. Sachant que maintenant l'argent n'est plus gratuit, je pense que c'est un peu une équation impossible à résoudre.
Alors nous, on a une résolution de l'équation. Eric Ayer.
Disons que si vous me permettez une métaphore, on a l'impression que c'est l'économie française, un peu comme l'économie mondiale. Hein, c'est un peu une boule de flipper, vous voyez. Elle était partie avec
Anne. Chanson, ça.
Exactement, des années 80. Et donc, du coup, c'est aussi le retour de l'inflation comme dans les années 80.
Oh, elle est belle, celle-là.
Et on voit bien que cette boule de flipper, elle est partie avec un bel élan. Vous voyez, l'élan, on avait ce qu'on appelle un acquis de croissance de quasiment 2,5 points. Enfin, c'était assez rare d'avoir cela. Et toutes les projections, c'était au moins 4% de croissance. Ça allait bien. Et puis, là, la boule est en train d'aller dans tous les sens à cause des champignons. Alors, ces champignons du flipper, c'est la crise de la Covid qui revient en Chine. C'est la guerre en Ukraine. Ça commence à être du coup, les problèmes de pouvoir d'achat. Et donc, on ne sait pas exactement où ça va aller. Ça peut même tomber très vite. Et donc, on essaye un tout petit peu la piloter, mais attention à ne pas tilter. Et donc, effectivement, si on va trop vite, il y a trop d'inflation, et donc on ne sait pas où on va, donc on augmente très vite les taux d'intérêt, on va pouvoir tilter. Et si on va trop vite on ne peut plus, il faut lever tous les boucliers tarifaires, etc., là, il va y avoir des tensions sociales. Donc, effectivement, il va falloir manier tout cela avec beaucoup de précautions. Pour justement pas faire tilter l'économie. Et ça, c'est ce gouvernement-là qui va devoir le faire avec beaucoup de soin, mais avec un petit matelas, une sorte d'extra-balle qui est...
Je vous ai rarement entendu aussi négatif.
Parce qu'on parle plus depuis un moment, peut-être.
Vous êtes venu régulièrement ici, mais c'est la première fois.
Mais globalement, il y a quand même.
Très inquiet, en fait. On perçoit une inquiétude.
Il y a l'extra-balle, tout de même. L'extra-balle, c'est la surépargne des ménages, quoi. Et ça, on l'oublie,
Alors attendez, j'ai quelque chose pour vous. C'est que vous avez vu le rapport de l'INSEE, L'INSEE dit non seulement il y a de la surépargne, mais les Français. Les Français veulent continuer à surépargner.
Oui, d'accord. Mais ça veut dire Mais ça veut dire qu'il y a énormément d'épargne. D'accord.
Oui, et s'ils ne veulent pas taper dedans.
Oui, mais d'accord. On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif.
Exactement.
Mais il y a c'est quand même un petit
surtout
matelas.
Surtout avec un flipper.
Si c'est un dauphin, en plus, il ne boira pas. Mais globalement, on voit bien que cette surépargne peut être un matelas tout de même. Un matelas assez important, peut-être qu'il ne sera pas pour 2022, il sera pour 2023 ou 2024. Il ne faut pas oublier que c'est des sommes exceptionnelles. Ouais. Et vous voyez, c'est ça qui est aussi le miroir du déficit public. Hein. On a mis beaucoup d'argent, mais qui est pour l'instant
stocké dans les.
Donc il va bien à un moment aller soit en investissement, soit en baisse de taux d'intérêt, soit en consommation.
Moi, je vais dire juste un truc, vous allez voir, c'est très malin. Dans la période 80-87.
Le teasing.
Dans la période 80-87, l'épargne est passée de 21% du revenu disponible à 10%. Est-ce qu'on va être capable
durant la période qui suit, de peut-être dans la même dynamique, je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, ça ne nous concerne pas, nous, l'épargne marchande.
Moi, j'y crois pas du tout,
Il faut être vigilant aussi sur la répartition de cette épargne au sein des classes de la population. Parce que
les gens comme nous,
aux États-Unis, il y a des chiffres très, très précis sur la répartition de l'épargne en fonction des certains quintiles de la population. Et on voit vraiment que cette épargne, elle est concentrée sur elle est dans les mains des ménages les plus aisés. Elle ne sera pas forcément utilisée pour de la conso.
Non, d'accord. Mais en gros, c'est 30 000 euros quand vous êtes dans le premier décile, enfin, les plus riches, donc le dixième décile.
Vous regardez Eric Lewin.
Pardon.
Mais non, il regarde
Marc. Il doit être idéal.
Non, c'est à la radio, donc personne ne sait, donc je peux mentir.
Et ça descend effectivement à quasiment zéro quand vous êtes dans le dernier. Oui. Donc c'est effectivement concentré. Bon, mais ok, ces 30 000 euros ne vont pas être consommés forcément, mais on peut penser, dans les années précédentes où il y avait cette surépargne, 40% de cette surépargne était consommée les années suivantes. Bon, et donc là, on peut considérer peut-être que 20%, mais 20% de cette somme, qui est de 166 milliards.
Je crois pas du tout.
Donc ça n'ira nulle part.
Je pense que ça va continuer à être stocké parce que il y a tellement d'inquiétudes sur l'avenir, sur la gestion des retraites,
Mais quelqu'un va bien l'utiliser. Dire que les hausses de taux n'existeront pas. C'est-à-dire qu'ils vont le mettre en assurance vie.
D'ailleurs, on l'a vu cette semaine aux États-Unis où les taux d'intérêt ont rebaissé parce qu'en fait, il y a eu une épargne qui s'est déversée.
Mais alors, il ne faut pas s'inquiéter alors de la hausse des taux d'épargne, y compris sur la dette publique, puisqu'il y a cette épargne. L'idée, c'est de dire que ça va bien aller quelque part. Si ça va pas dans la conso, ça ira financer les entreprises, ça ira financer la dette publique, ça ira bien. Quelque part, les banques vont bien faire quelque chose de cet
argent. J'avais une question. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, tout ce qu'on va faire sur la transition énergétique, mais ce qu'on va faire aussi sur tout ce que vous avez dit dans tous les plans de relance, digitalisation, tout ça, ça va créer de la croissance?
Alors, après, c'est déjà, on n'a pas le choix. Il y a tout notre retard sur la digitalisation. Ça va créer de la croissance. Je dirais c'est une bonne nouvelle.
Parce que cette dette-là, je veux dire, ça sera comme la dette Covid. On pourra tous en avoir. Personne ne va rien dire parce qu'on va tous faire la même chose. Donc, si on rajoute 30% de dette transaction énergétique, ça ne va pas changer la face du monde.
Le problème aujourd'hui, c'est que la dette, elle a un coût. Sur le 10 ans français, on est passé en 6 mois de 0% à 1,5%. Sur la dette française, aujourd'hui, on est à 2 800 milliards. On fait un calcul très simple de ces 1,5% fois 2. C'est très brutal. Fois 2 800 milliards, on est à 40 milliards. C'est le budget de la défense.
Bon, c'est pas exactement comme ça.
Non, le temps va...
C'est
un calcul très brutal. Mais
ça, c'est à 10 ans. Mais la première année, c'est rien.
C'est ça.
On est d'accord. C'est un calcul brutal. Mais aujourd'hui,
c'est 2,5 milliards.
Mais on doit regarder aujourd'hui les choses de façon soutenable dans le temps. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a aucune idée dans quel environnement d'inflation et de croissance on va être, surtout d'inflation, on va être dans 5 ans. Et c'est ça le vrai point.
Très bonne transition, puisque c'est la deuxième partie. Je lance le sujet. L'inflation et encore l'inflation. On n'en sort pas. Les mois se suivent et se ressemblent. L'inflation reste extrêmement élevée partout dans le monde et pour l'instant, pas de repli. Eh bien, vous avez la parole, Valentine. L'inflation jusqu'à quand? L'inflation, quelles conséquences pour l'économie et pour notre argent?
L'inflation aujourd'hui est très élevée et elle est sur des niveaux qui ne sont pas acceptables d'un point de vue politique et économique. Et tant qu'on a ces niveaux d'inflation et surtout ces anticipations d'inflation qui restent très très élevées, les banques centrales vont maintenir ce qu'on appelle un BOKI, ça veut dire qu'elles vont vouloir durcir les conditions monétaires, monter les taux, réduire leur bilan. Ce que je regarderai aujourd'hui, c'est qu'on s'attend quand même à avoir un certain recul de l'inflation par des effets de base sur la deuxième partie de l'année. Ce qu'il faut aujourd'hui surveiller.
À quel niveau? C'est-à-dire, on peut redescendre sur des quoi?
On redescendra sur des niveaux de l'ordre de qui resteront beaucoup trop élevés pour les banques centrales.
Donc 6% peut-être aux États-Unis, 2,5% ou 3% chez nous.
Au moins 3% chez nous. Ce sont des niveaux qui ne sont toujours pas acceptables. Mais ce qui va être important aujourd'hui, c'est de surveiller deux choses. La diffusion de la hausse des prix de l'énergie au reste de l'économie, ce qui va se passer, ce qu'on appelle sur l'inflation core, l'inflation hors énergie, hors alimentation. Et c'est la répercussion des hausses des coûts de production que vont faire les entreprises sur les prix finaux. Parce qu'une hausse de 37%, ça ne va pas être possible pour les entreprises de ne pas, à un moment ou à un autre, commencer à augmenter. Elles l'ont déjà fait, mais...
Largement.
Largement. Non, pas largement. Les entreprises vont continuer de répercuter ces hausses de coûts dans les trimestres à venir. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui est... L'autre point important à surveiller, c'est tout ce qui est la crédibilité des banques centrales aussi, qui est important.
L'inflation jusqu'à quand et jusqu'où?
Moi, je pense que, enfin, il faut sortir du chiffre de l'inflation aujourd'hui, parce que il faut regarder le niveau des prix. C'est bien plus important, parce que on a parlé d'effet de base dans un sens, mais il y a un effet de base dans le premier sens. Et aujourd'hui, quand vous regardez le niveau des prix, dans beaucoup de prix, t'as pas des records. Et le prix du baril, on l'a déjà connu à 110, même on était à 140. On n'est pas à des niveaux extrêmement importants. Bon, il y a quelques prix comme les containers, mais ça va pas durer. Les prix des containers qui sont montés jusqu'à 10 000 dollars ou même 15 000 dollars le container, ça va revenir progressivement. Mais non, en termes de niveau de prix, moi je pense, mon analyse, c'est que on va se maintenir à des niveaux élevés. Mais vous voyez, et donc du coup, l'inflation va revenir à 2%, mais non pas parce que les prix auront baissé, mais parce que les prix vont se stabiliser.
À des niveaux quand même
mais à
élevés.
Des niveaux élevés, c'est un effet de marge d'escalier.
D'accord.
Et peut-être que les 10 ans avant la crise Covid, on était à des niveaux de prix trop bas. Trop faible. Et donc, on revient juste à des niveaux de prix qui étaient un peu ce qui prédominait dans les années 2011-2014. Vous voyez, ce n'est pas la préhistoire non plus. Hein. C'était des moments...
D'accord, mais ça veut dire quand même des taux d'intérêt.
Ok, non, mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, cette inflation, elle va revenir à 2%. C'est ce que nous disent à peu près tout le monde. En 2024, peut-être. Okay. Mais globalement, les banques centrales peuvent se dire, ok, donc c'est transitoire. Donc, qui doit supporter la hausse là, de cette inflation à très court terme? Et donc, soit on dit, c'est les ménages, d'accord, donc on doit surtout pas augmenter les salaires, sinon effet de second tour, et là on peut monter beaucoup plus haut, d'accord, mais alors là c'est une crise sociale qui arrive. Soit on dit, du coup c'est au salaire, mais alors là du coup c'est les entreprises qui pourront pas, etc., et il va y avoir des hausses de taux très fortes de la part des banques centrales. Et donc c'est ça le rôle des États aujourd'hui, pour pas faire tilter le flipper. C'est à dire que c'est soit on fixe les prix. C'est une proposition qui est aujourd'hui. Ça, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'effet de second tour, mais on ne sait pas comment on en sort. Soit vous donnez des chèques directement aux ménages, mais ça fait de la dette publique, et ça, on sait que vous ne l'aimez pas du tout.
Pas du tout. Et Eric Lewin, les entreprises que vous voyez, elles ont répercuté les hausses de
prix? Elles commencent à répercuter, même si la situation n'est pas semblable à celle des États-Unis, où il y a vraiment une inflation salariale aux États-Unis, je trouve. En Europe, beaucoup moins.
Mais hors salaire, est-ce qu'elles répercutent la hausse des coûts des matières premières?
Le problème, c'est qu'elles sont un peu contraintes, parce que comme elles sont dans des marchés de concurrence, c'est extrêmement difficile. Donc on n'a pas, et c'est pour ça que les rentabilités baissent. C'est pour ça, c'est ce que je disais. Mais juste sur l'inflation, moi je crois que le point le plus important pour les marchés, je parle deux secondes des marchés, c'est quand même l'attitude des banques centrales. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que la Fed arrive à bien gérer cette inflation qui n'arrête pas de monter. La BCE, c'est un peu plus compliqué. Il y a eu quand même beaucoup de critiques au sein de la BCE.
Mais c'est pas la même.
Ouais, mais j'ai l'impression
on n'a pas la même. Et puis la Fed, je dirais pas qu'elle l'a bien gérée. Elle est très en retard.
J'ai l'impression que l'Europe est encore plus en retard, quoi.
Je suis pas tout à fait d'accord, parce qu'on n'est pas tout à fait dans la même situation. Et puis nous, on est frappé de plein fouet par la guerre en Ukraine, ce qui n'est pas le cas des États-Unis.
C'est vrai. Mais j'ai quand même le sentiment que Christine Lagarde est un peu en retard.
Louis de Fetz, la répercussion des prix, c'est-à-dire les entreprises aujourd'hui. Moi, j'ai quand même l'impression, je suis pas tout à fait d'accord avec Valentine, que les entreprises, elles ont largement augmenté leurs prix, voire plus que la hausse qu'elles ont subie, quoi.
Et notamment dans tous les secteurs où il y avait des pénuries.
Bah oui.
Les hausses de prix passaient directement.
Dans le transport maritime.
Dans toutes les sociétés
les groupes pétroliers,
de matériaux, des sociétés comme Thermador, comme Samsé, qui sont des mini Saint-Gobain, ont augmenté les prix directs. C'est passé vraiment. C'était le premier qui voilà. Si vous augmentiez pas les prix, ça passait pas. Il y a quelqu'un d'autre qui le faisait à votre place. Et ce qui est assez intéressant aussi pour revenir sur ces sociétés en France, donc. Me dire un peu aussi, Eric, ce qui est assez intéressant, c'est que l'inflation que l'on a, ok, certes, ça va impacter les marges de certaines entreprises, tu l'as dit tout à l'heure, ok, mais sauf qu'elles vont pouvoir passer les hausses de prix avec un effet décalage, donc sans entendre, il y aura un petit pincement pendant quelques temps, mais en revanche, en 2023, quand l'inflation va se calmer, ça sera un acquis.
D'accord.
Et ça, les sociétés sont très confiantes pour 2023, parce que ok, cette année, ça va être un peu plus compliqué, mais dès l'année prochaine, elles devraient retrouver des marges records avec un peu plus de productivité.
C'est-à-dire, ce que vous dites, c'est qu'elles ont augmenté leurs prix, mais que leurs coûts vont baisser parce que, voilà, il va y avoir une détente
des coûts de transport, logistique.
Et donc, du coup, elles vont peut-être un peu s'ouvrir. Non, après, la seule variable d'ajustement, c'est que peut-être que, justement, la sensibilité des consommateurs va être forte quand même. Parce qu'avec une augmentation des prix, pour l'instant, on ne la voit pas parce que vous disiez qu'il y a beaucoup d'épargne, vous avez raison.
Pour l'instant, c'est passé. C'est vrai que quand on dit. Ça va continuer, c'est peut-être ces dernières hausses de prix qui vont peut-être finir par faire mal et plus passer.
Pour le moment, on a l'impression que ça commence à faire mal là maintenant.
On est dans le dur. Là, pour l'instant, ça passe encore.
On l'a vu quand même avec les Walmart, on l'a vu avec les Target.
Alors après, c'est très difficile.
Dans l'alimentaire,
très différent ce qui se passe aux États-Unis. Enfin, parce que Walmart, tout le monde dit c'est un problème du consommateur. Non, le Walmart a même augmenté. Son chiffre d'affaires en comparable, il a même augmenté.
Mais ça, c'est logique puisqu'ils montent leur prix. que leur chiffre d'affaires.
Oui, ou même le volume est assez bon, c'est-à-dire que le consommateur est là. Mais le problème de Walmart et de Target, c'est qu'ils ont un double impact, coût logistique, coût d'électricité. Vous avez vu, le coût de l'électricité même du gaz n'a jamais été aussi haut en France
grâce au nucléaire.
Et le salaire qu'on n'a pas en Europe, c'est vrai que les salaires ont explosé aux États-Unis, alors qu'en Europe, on n'a pas encore ça. C'est vraiment l'inflation liée plutôt aux matières premières et à la guerre en Russie-Ukraine. Donc les États-Unis, eux, ils se sont pris le squeeze d'un coup. C'est pour ça que c'était aussi violent sur les Walmart, les...
Exact, parce qu'en France, ils sont pris ça d'un coup, mais avec une croissance
beaucoup plus lisse,
beaucoup plus forte que la nôtre, quoi.
Oui.
Ils avaient une machine qui était quand même.
Mais la croissance est toujours là. Et quand on parlait de taux d'épargne tout à l'heure, en tout cas aux États-Unis, le taux d'épargne a baissé. Je vous rappelle qu'avant la crise, les États-Unis, ils avaient rappelé du Covid, ils avaient un taux d'épargne au-dessus de l'OCDE, au-dessus de 6%. Et là, je crois que ça a baissé. Et même les taux de crédit ont augmenté dedans. Donc on voit que c'est plus un problème de marge, de coût d'inflation salariale plutôt que de chiffre d'affaires.
Ouais. Allez, on se retrouve en deuxième partie de l'émission. On va vous expliquer où investir en période d'inflation. On va vous dire exactement où vont les marchés. On vous donnera le CAC à la fin de l'année. On va vous dire quels sont les meilleurs gérants de la semaine. Vous allez voir, les performances sont fabuleuses. On se retrouve à tout à l'heure.
BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Et on se retrouve après une première partie de l'émission où vraiment, alors ça a donné la pêche, hein. Là, on avait envie de se dire, putain, c'est les vacances, c'est suicide, fabuleux, hein. C'était extra. Donc, avec Valentine qui a trouvé le moyen d'être encore plus pessimiste que moi, ce qui est absolument incroyable. Je pensais que c'était pas possible. Eric Lewin, dont on dit sur les réseaux sociaux qu'il s'est déjà converti à l'énergie solaire compte tenu de son teint.
C'est vrai.
C'est ça?
Ouais, c'est vrai.
Vous êtes très en avance sur la
transition. Écolo, je me vois,
Vous êtes très en avance.
En vélo, non, mais
vous êtes très en avance sur la transition énergétique. Louis De Fels qui se demande maintenant quel poste il peut avoir dans la boîte. Puisque
PDG, PDG.
Mais non, mais je crois qu'il y a quelqu'un au-dessus de vous.
Si, il y a notre président Emmanuel qui a créé la société.
D'accord, bon, c'est la prochaine victime.
Non, ça, le rôle de président, ça m'intéresse.
Non, mais c'est pas grave. Il écoute pas l'émission. Et Eric Heyer qui m'a surpris. Franchement, ça m'a même un peu inquiété. Non. J'avoue, parce que d'habitude, vous me dites toujours, non, mais c'est pas grave, de toute façon, on va distribuer tellement d'argent que tout va aller bien. Parce que c'était ça votre truc, vous savez, il faut donner de l'argent à tout le monde, c'est pas grave, il faut aller prendre de l'argent.
Pour aller jouer au flipper après.
Voilà, pour aller jouer au flipper.
Ah, ok.
Allez, on va se poser une question de fond, puisque l'émission s'appelle C'est votre argent. Eh bien, on est en période d'inflation, on est tous d'accord là-dessus. Ben, où est-ce qu'il faut investir votre argent en période d'inflation? Alors là, les géants, on n'allait pas me dire que en action, parce que ça, c'est insupportable. D'accord. Donc,
il n'y a que ça.
Il n'y a pas d'alternative. Non, aujourd'hui, voilà, aux États-Unis, à 3% de taux sur le 10 ans, les épargnants américains ont décidé que c'était une alternative. Ils ont mis de l'argent. Il y a eu de l'argent qui est rentré cette semaine.
Juste la semaine dernière, il y a eu 11 milliards et demi sur les souveraines.
Eh ben, c'est beaucoup.
Juste la semaine dernière.
C'est beaucoup d'argent.
Sinon, il y avait décollé.
Ça veut dire.
Il y a eu 12 semaines consécutives.
Oui, mais ça veut dire quand même qu'il commence à y avoir des alternatives. Louis De Fels, si on a des livrets, des fonds en euros, des actions, de l'immobilier, du bitcoin, de l'or, est-ce qu'il y a là-dedans un rempart contre l'inflation? Et où est-ce que vous conseilleriez à ma grand-mère de mettre son argent?
Acheter des forêts.
Ouais.
C'est vrai que c'est un actif qui marche très bien sur l'inflation, mais bon.
Il n'y a aucun rendement, mais c'est pas grave.
Ouais, mais c'est bien, c'est diversification. Mais pour parler plus sérieusement, sur vous parlez des taux, disons, aux États-Unis, c'est vrai qu'aujourd'hui.
Autour de 3%.
Autour de 3%, ça commence à faire un vrai arbitrage. On a parlé tout à l'heure d'inflation. Moi, je pense que clairement, les taux à 3,14 qu'on a quasiment eu au plus haut, on ne les reverra pas. Clairement. Donc c'est vrai que si on revient tentativement à 3%, clairement, on va voir que c'est un bon safe haven d'avoir des taux à 3% aujourd'hui.
Nous, on n'en bénéficie pas parce que nous, un épargnant français, il ne va pas aller acheter du 10 ans.
C'est compliqué, surtout qu'il y a
l'effet devise.
Surtout, il y a l'effet devise. Voilà. Tout le monde parle de l'effet devise.
Qu'est-ce qu'on fait, nous, Européens?
La devise qui est 1,05, elle peut. Vous savez ce qui se passe en ce moment avec la différence, celle de différence de taux d'intérêt? L'euro peut très bien revenir sous la parité, donc ce qui est très envisageable. Pour nous qui sommes en euros, clairement, les marchés actions, hein, donc c'est ok, je prêche pour ma paroisse.
Les marchés actions, si, la hausse des taux, quand même.
Non, mais le marché des taux, t'entends, le marché actions est corrélé avec la hausse des taux. Il y a une corrélation de 0,6% positive. C'est pas parce qu'il y a hausse des taux que le marché d'actions doit baisser. C'est fini, ça, c'est dans le passé. Comme je continue de penser qu'il y aura l'inflation qui est transitoire, et je continue de le dire, je pense que
c'est peut-être comme tout le monde. Il veut mon job, en fait.
Voilà, on prend tout, moi, tout.
Allez, vous prenez tout. Allez, donc.
Non, c'est vrai que l'inflation, les actions peuvent être positives en tant qu'inflation. Et notamment, comme je continue de penser que l'inflation va être transitoire, malheureusement, à chaque fois, il y a à nouveau quelque chose qui fait que l'inflation est plus lente, parce qu'entre la productivité, la baisse de la démographie, il n'y aura plus, à part des chocs comme on vit, qui malheureusement durent de plus en plus longtemps. Donc, le placement en action est vraiment bien. Et on parlait tout à l'heure...
Mais vous arrivez à comprendre qu'un épargnant, il ne peut pas mettre 100% de son argent en action.
Non, mais il y a toujours l'immobilier qui a un bon rempart. Mais des sociétés, bon, ça peut être
un tas de crème. Par exemple, ça va remonter, ça ? Les taux des fonds en euros, c'est autour de 1,30-1,50 ?
Non, parce qu'après, on parlait de la duration. C'est ça le problème, c'est que les taux ont déjà remonté et ils vont devoir se refinancer peut-être un peu.
Le livret A, les taux vont remonter cet été, c'est super, ça.
Oui, ça va passer de quoi ? Il est à combien ? Je ne sais même pas combien.
Il est à 1%.
À 2%,
on parle de 2%. Pour le petit peuple. 1%. Éric Lewin, vous avez des idées ?
Mais moi, j'ai des
idées. Vous n'allez pas me dire les valeurs moyennes ?
Mais non,
chacun.
Mais c'est pas les valeurs moyennes, mais parce que vous avez une vision.
J'ai une vision globale. Attends. Moi, j'ai une vision du peuple.
Ok. Le CAC, il fait moins 12 depuis le début de l'année.
Ouais.
Okay. Le luxe, il fait moins 30 parce que la Chine, il y a moins de pricing power, etc.
J'entends.
Combien font Thales, Total, Sanofi depuis le début de l'année ? C'est des hausses à deux chiffres. Donc, il faut arrêter sur les actions. C'est sûr que c'est compliqué.
Alors, vous dites quoi ? Ben,
ça veut dire que c'est
quand il y a une baisse, il y a toujours de valeurs qui s'en sortent.
Quand le Nasdaq perd 29%, vous n'avez pas envie peut-être de revenir un petit peu sur les thèses ?
Je vous pose la question, c'est vous le spécialiste, moi je ne suis pas spécialiste.
Moi je reste sur les actions, moi je suis un fervent adepte, quelles que soient les conditions de marché du stock picking, parce que je ne fais pas comme certains de l'allocation d'actifs, moi je fais du stock picking, et je trouve que les conditions sont assez intéressantes. En plus maintenant, ce n'est plus du tout les taux qui inquiètent les investisseurs, c'est plutôt le sentiment de récession. Les taux, qu'est-ce qui s'est passé en une semaine sur le 10 ans américain ? Lundi dernier on était à 3,21, tout le monde paniquait, maintenant on est à 2,85 sur le 10 ans américain, donc c'est moins un sujet. C'est sûr que la récession c'est un sujet, mais dans cette période, il y a toujours de très belle valeur. Dans l'informatique, vous avez vu, j'en parlerai dans quelques instants, il y a eu pas mal d'opérations financières. Donc moi, je reste persuadé qu'il faut être dans le monde des actions. Maintenant, moi, je n'achète pas d'indices, je fais du stock picking, donc j'ai une vision un petit peu déformée.
Mais vous comprenez, je vais dire la même chose qu'à Louis de Fels, qu'un épargnant moyen ne va pas mettre 100% de son argent en actions.
Mais d'accord,
et vous ne conseilleriez pas.
Qu'il fasse un peu d'assurance vie, qu'il fasse un peu d'immobilier.
C'est ma question.
Qu'il fasse un peu de livret A. Mais moi, c'est pas ma spécialité. Je vais pas vous faire des allocations de livret A.
Mais vous essayez de sortir de votre zone de confort.
Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?
D'avoir une réflexion un peu globale.
Si je vous dis le livret A.
Vous qui êtes maire de Neuilly, vous devez avoir une vision globale.
Si je dis dans votre chronique, non, il faut faire du livret A, les mecs qui m'écoutent, ils disent putain, Lewin, il est génial, il me dit de faire du livret A. Non, moi, je dis qu'il faut continuer à rester dans le monde des actions, mais en sélectionnant vraiment les bonnes valeurs.
Est-ce que vous pouvez prendre un peu de hauteur par rapport à ces deux géants ?
Bon, si on est dans un environnement avec plus d'inflation, on se positionne. Bien évidemment, on va préférer les actions à la dette des États et on va aussi diversifier en faisant de l'immobilier. Je pense que ça, c'est un schéma qui est très simple. Je pense que la variable sur laquelle on a tous du mal à se positionner, c'est vraiment quelle va être cette inflation à moyen terme. Aujourd'hui, on est tous sur un message que cette inflation est un sujet transitoire, que cette hausse de coûts qu'on a aujourd'hui pour des raisons géopolitiques, mais aussi pour une crise sanitaire, c'est quelque chose qui n'est pas là pour durer. Mais après, c'est pas forcément, je veux dire, on peut se tromper, parce qu'on va être quand même dans un environnement où on va avoir des changements en termes d'environnement, on va avoir des changements en termes de structure de coûts. On voit aujourd'hui que les entreprises, cette histoire de perturbation sur les chaînes de production, c'est absolument pas en train de s'arranger. Hein. Je rappelle que quand même le scénario qu'on avait tous, c'est vous inquiétez pas, au deuxième semestre de cette année, les perturbations des chaînes sur les chaînes de production.
Là, on parle de 2023, voire 2024.
Maintenant, c'est 2023, ça veut dire qu'aujourd'hui, les entreprises, qu'est-ce qu'elles sont en train de faire ? Elles attendent pas que ça s'arrange. Elles sont en train de s'adapter. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a quand même une hausse de coûts. Et la question qu'on se pose, et que je me pose, et c'est vrai que je n'ai pas une réponse évidente, et c'est la question que se posent les investisseurs et les banquiers centraux, est-ce que ces hausses qu'on voit sur le coût, est-ce que c'est one shot, est-ce que c'est juste en une fois, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on va voir de façon structurelle ?
Et pour vous, ça, c'est déterminant par rapport au choix des classes d'actifs ?
Mais évidemment, c'est déterminant, parce que si on est dans un environnement... Si c'est juste en une seule fois, ça veut dire qu'OK, ce phénomène qu'on a sur l'inflation aujourd'hui, c'est quelque chose de transitoire. Cette hausse de taux qu'on a aujourd'hui, c'est un point d'entrée. On va se positionner sur le 10 ans américain. Mais si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'on va continuer d'avoir un environnement avec une inflation qui reste soutenue. Ça veut dire que ces taux, aujourd'hui, on va devoir les banques centrales. Ce n'est pas, les hausses de taux qui sont aujourd'hui anticipées par le marché qu'il va falloir faire, mais c'est beaucoup plus. Donc, et on va être dans un environnement, dans les années à venir, où les taux vont être plus élevés qu'aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui est différent.
Et dans ce cas-là, c'est quoi ? Imaginons votre scénario, qui est très détendant. C'est quoi, en termes d'investissement ?
C'est pas quelque chose qui est de très positif pour l'environnement des investissements. Parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a une inflation. Alors, l'inflation, c'est en général extrêmement positif pour pour les actions, mais il faut avoir l'idée, il faut vraiment faire la distinction si c'est une inflation qui est tirée par une demande, par des hausses au niveau des salaires, donc ça veut dire quelque chose qui est extrêmement positif pour l'économie, pour les actions, pour l'immobilier, ou si c'est une inflation qui est tirée par les coûts, et c'est ce qu'on vit aujourd'hui, surtout en Europe, et ça c'est pas forcément quelque chose de positif.
Éric Hier, vous qui gérez les finances publiques, vous connaissez mal l'épargne des ménages, puisque vous êtes très loin du peuple, mais est-ce que vous avez une opinion sur le sujet? Mais
justement, moi, je suis proche du peuple, et donc je vous écoute, et j'ai compris que vous étiez l'homme du passé, et donc, mais je suis avec vous, parce que moi, quand j'ai fait mes études, on me disait que face à l'inflation, il fallait acheter de l'or, et donc j'ai l'impression que c'est plus le cas, donc c'est la première chose. Et alors, la deuxième chose, c'est que normalement, et là, c'est ma casquette de finances publiques, mais normalement, si le scénario qui nous est décrit, très noir, qui va arriver demain, bah, normalement, c'est de la... Moi, j'ai lu Keynes, et c'est le flight to quality qui arrive, c'est la fuite vers la qualité, donc il va falloir investir dans ce qui est sans risque, et ce qui est sans risque, bah, c'est un peu de la dette publique, me semble-t-il, et donc soit américaine, soit...
C'est pourquoi ce qui pas... s'est passé cette semaine. Hein,
bah oui, c'est un peu ça. Et donc, est-ce que c'est pas un signal, effectivement, vous voyez, de, bah voilà, on prend pas beaucoup de risques, il y a des rendements qui sont pas mirobolants, mais tout de même, vous voyez, quand vous êtes, quand vous avez des anticipations d'inflation qui sont à 2,5 à 5 ans ou 10 ans, bon, mais finalement, quand vous avez 3 de rendement...
Oui, c'est mieux qu'un taux négatif.
Bah oui, et donc, c'est pas si noir que ça, mais... L'or, je comprends pas pourquoi c'est...
Sur l'or, pourquoi ça fait pas son actif refuge? Parce que l'or est complètement corrélé au taux réel. Et en ce moment, les taux réels sont en train de remonter. Ah, oui, sont négatifs, sont en train de remonter. Donc les taux réels, c'est les taux nominaux ajustés de l'inflation. Et là, ils sont en train de remonter. C'est pour ça que l'or n'a pas en ce moment son facteur refuge qui avait été par le passé.
Allez, on passe quelques minutes sur les marchés. Le CAC, moins 12,12%. Le S&P, moins 18. Le Nasdaq, moins 27. L'Eurostock, moins 15. Nikkei, moins 8, Shanghai moins 15, le FTSE, enfin Londres moins 1,1%. Où vont les marchés, Eric Lewin?
Où vont les marchés?
Vous achetez ou pas?
On va avoir une période.
Les indices.
On va avoir une période de forte volatilité. Moi, je crois qu'il ne faut pas être noir du tout, parce que vous avez bien vu que chaque fois qu'on a une forte baisse, ben finalement, on rebondit. Regardez ce matin, par exemple. Vendredi matin, qui aurait pu penser que la Banque de Chine allait baisser ses taux d'intérêt de façon plus importante que prévu? Et donc, les marchés ont rebondi. Donc, on risque d'avoir, au cours des prochaines semaines, des séances comme ça, moins 2, plus 1, moins 3, avec toujours de la volatilité. Vous avez vu que le VIX, l'indice de la volatilité, est toujours sur des niveaux de 30. Et quand on regarde les valorisations
des... Toujours ces niveaux 30, vous considérez que c'est trop haut, trop bas?
Non, mais ça veut dire que ça veut
c'est
dire
pas très haut.
Non, c'est pas très haut, mais c'est
par rapport à une période de crise, c'est pas très haut.
145 au plus haut en 87. Hein. C'est à l'époque, on démarrait sur les marchés.
Et 80% au moment du Covid.
Il y a 80% au moment du Covid. Et puis, quand vous regardez les valorisations des indices, le Nasdaq, alors c'est encore cher, mais c'est revenu sur un PE de 22, le S&P sur un PE de 16, le CAC 40 sur un PE de 13.
Donc vous nous dites, faut y aller.
Je dis encore une fois, faut faire du stock, faut pas tout vendre, quoi. Faut pas être short de la mort. Vous avez vu que la semaine dernière,
on a... Short de la mort.
Ben oui.
C'est quoi short de la mort?
Faut pas être vendeur. Faut pas être vendeur comme un fou. Il y a toujours de belles actions. Il y a toujours de belles valeurs. Vous avez vu que, alors, il y a quand même un truc très étonnant, c'est que le thème du pricing power, par exemple, ne fonctionne plus du tout. Vous savez, le pricing power, on a le sentiment que le luxe, même s'il augmente ses prix, la demande ne faiblit pas. Alors, c'est vrai. Par exemple, Hermès a augmenté ses prix, sauf que depuis le début de l'année, quelles sont les deux plus fortes baisses du CAC 40? Kering moins 36 et Hermès moins 33. Donc,
pourquoi?
Ben parce que les inquiétudes sur la Chine sont nettement supérieures au fait que le groupe a du pricing power. Et comme vous avez un tiers des boutiques fermées en Chine, ils ont 26 boutiques en Chine, Hermès, il y en a une dizaine de fermées, forcément il y a un impact négatif. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que les vedettes de l'année dernière, les Dassault Systèmes, les Kering, les Hermès, ne sont plus. Et donc maintenant, que font les investisseurs? C'est plutôt du défensif, c'est du Thalès dans l'armement, mais ça c'est classique, c'est du Sanofi, et puis c'est du Total avec la hausse du pétrole, mais ça c'est normal.
Louis de Fels, les marchés.
Je pense qu'on va toucher pas loin des points bas d'ici entre maintenant et cet été. Vous savez comment ça se passe, le marché anticipe toujours la baisse. Là, vous allez voir qu'il y a eu beaucoup de valeurs qui ont été complètement massacrées. Je pense que ça aurait été encore un peu tôt. Vous avez vu les chiffres de la Fed aux États-Unis. Donc les ISM manufacturiers vont peut-être sûrement repasser sous les 50. Et c'est souvent à ce moment-là, vous savez, la bourse anticipe. Et c'est à ce moment-là il faut acheter. Ce qui va se passer, c'est que là, il y a beaucoup de mauvaises surprises. Vous avez vu, on parlait tout à l'heure des forces d'effet de base. Le T2, T3 vont être très mauvais. Et à tous les coups, à ce moment-là, je pense qu'au mois de juillet, quand on se reparlera, ou en septembre, oui, mais à la limite, il y aura sûrement des gros profit warning, mais les sell-side pourront faire leur travail et abaisser leurs prévisions. Et là, on dira, le travail est fait, on regardera la valo des entreprises, on dira, ah ben finalement, on n'est pas aussi cher, et vous verrez qu'il y aura peut-être des profit warning, et à ce moment-là, les titres vont monter. Vous avez vu qu'au premier trimestre, les sociétés sortaient des super chiffres même au-dessus, et elles chutaient.
Donc là, vous nous dites quoi? Vous nous dites, on attend, et on va saisir les opportunités.
On commence doucement,
donc cet été,
on commence à acheter des maillots,
on reste vigilant.
On reste vigilant.
À l'Eden Rock avec Eric Lewin dans sa suite, on saisira les opportunités.
Voilà. Non, entre maintenant et cet été, c'est clairement, ça va arriver. Et pour revenir sur les valeurs du Nasdaq. C'est vrai qu'il y avait une exagération liée aux banquiers centraux. C'est revenu en valeur historique, mais moi je serais toujours prudent sur les valeurs à trop fort PE, parce qu'il y a eu un excès à la hausse et aujourd'hui on peut aussi avoir un excès à la baisse. C'est vrai qu'il y a des niveaux de valuation qui redeviennent acceptables, mais je pense que c'est encore trop tôt pour revenir sur ces valeurs-là, parce qu'il n'y a plus du tout de catalyse, même si les taux d'intérêt pour moi maintenant sont capés, ne remonteront plus.
Juste un mot, Marc. Oui. En 1980, Eric, l'inflation aux États-Unis était au-dessus de 12%.
Oui.
Le Dow a fini avec une hausse de 15%. Enfin, ce que je veux dire, c'est pas parce qu'il y a de l'inflation que les marchés s'effondrent.
Et les 10 années d'après, il n'a pas bougé.
D'accord.
D'accord.
À partir de Reagan, 83, 84, ouais. Si. Non, mais non. Si, c'était une explosion, enfin, jusqu'au 87.
En 10 ans, je crois qu'on a eu 1% de progression par an en moyenne.
D'accord, vous prenez le crack de 87 au milieu.
Évidemment.
C'est biaisé. Non,
évidemment, mais il faut être de mauvaise
foi. Prends les chiffres comme ça,
quel est le mot qui vous a marqué cette semaine, Valentine?
Alors, moi, mon mot de la semaine, ce serait arbitrage.
OK.
Aujourd'hui, on voit bien que les taux longs commencent à être capés. Les banques centrales, aujourd'hui, la BCE, hein, si on veut parler de l'Europe, reste très engagée à lutter contre l'inflation. Hein, on a l'impression que ça l'emporte sur toute autre considération. Le problème, c'est qu'une banque centrale a peu d'outils pour contenir des pressions sur une inflation qui est portée par des coûts sans pénaliser la croissance. Donc, à un moment donné, la BCE va être face à un dilemme. Lutter contre l'inflation ou préserver la croissance, c'est-à-dire maintenir des coûts de financement bas. Et ce dilemme, dans un environnement où les disparités économiques entre les pays, les disparités entre les économies des pays de la zone euro sont très fortes en termes de marché de l'emploi, de croissance potentielle et dynamique de dette. Donc la BCE va devoir faire à un moment un arbitrage.
Et d'après vous ?
Ça va pas être simple.
Je me disais aussi, il fallait une conclusion. Eric Lewin, le mot de la semaine.
OPA.
OK.
Il y en a beaucoup dans le monde des small et mid. Ça passe un petit peu inaperçu parce que ça fait pas les grands titres des journaux qui sont sur la Chine, l'inflation et l'Ukraine. OPA cette semaine sur Cast, c'est un éditeur de logiciels par un fonds qui s'appelle Bridgepoint, avec une belle prime de 27%. Il y avait eu Generix aussi, éditeur de logiciels, avec une prime de 33%. Il y a Kretinsky, Daniel Kretinsky, qui était dans le monde, qui a pris 15% de la Fnac. Vous avez De Richbourg qui a pris 19,6% d'Elior. Donc on sent que le paysage français continue. Malheureusement, comme il y a très peu d'IPO, la cote s'appauvrit. Mais en
IPO,
tout...
c'est introduction en bourse. Hein. Non, je le dis, mais tout le monde est pas au courant.
C'est pas possible.
Nous, on est regardé.
C'est un niveau CM1.
Mais quand même.
Comme il y a de moins en moins d'introductions en bourse.
Là, on a perdu quelques auditeurs.
La cote s'appauvrit, mais en tout cas, le retour des APA, c'est plutôt une bonne chose. Ça vous prouve qu'il y a toujours des coûts à faire en bourse.
Quand on est très content, on avait et du générique, c'est du cast. Je m'envoie une petite pub.
Bravo. Et Louis De Fels, le mot de la semaine pour vous.
Capitulation. Tout le monde a ce mot à la bouche depuis une semaine en disant le marché n'a pas assez capitulé, donc c'est trop tôt de rentrer. Peut-être qu'au final, il n'y aura pas ces fameuses capitulations. On parlait du VIX qui pourrait monter à 40, 50.
La capitulation, rappelez, hein, c'est ces séances où on a l'impression que...
C'est l'off total, voilà. C'est la fin du monde, et souvent c'est à ce moment-là où il faut y aller. Et là, on n'arrive pas à l'avoir. Pourtant, il y a quand même pas mal de signaux. On a vu que les retails aux États-Unis rappelaient les fameux Robin Hood.
Il y a eu une baisse de 5% cette semaine sur le Nasdaq un jour.
Enfin, ouais, mais et le lendemain, le CAC a perdu 1,26. Ouais.
Voilà, mais ça commence, on n'y est pas loin. C'est pour ça que je pense que c'est clairement pour les auditeurs qui nous regardent, faut clairement pas sortir des marchés aujourd'hui. La baisse, c'est trop tard. Ça sera entre maintenant et je pense cet été. Il y a quand même beaucoup de gens qui commencent à dire faut tout vendre, c'est catastrophique. C'est vrai, quand vous regardez les journaux télévisés, tout va mal. Et c'est souvent quand tout va mal ou au contraire, faut peut-être y aller.
Donc il y aura même pas, vous avez pas peur d'un dernier vague de baisse.
Peut-être. C'est pour ça que j'ai entre maintenant et cet été, c'est très possible.
Eric Ayer.
Pour continuer dans la bonne humeur.
Ouais. Allez-y, parce que franchement, là, j'ai une pêche d'enfer. Ouais. Tout ce que vous avez dit.
Rationnement. D'accord,
ah super, ouais, très bien.
Et c'est pas pour parler du scandale des rationnements dans les EHPAD de nourriture. Non, c'est vraiment le rationnement, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. On est en train de réfléchir en Europe à comment on va rationner le gaz.
Super.
Est-ce qu'on doit rationner sur les entreprises? Est-ce qu'on doit rationner sur les ménages? Et aujourd'hui, ce qui tient à peu près la corde, c'est qu'on va demander aux ménages de consommer une partie de son gaz, à peu près 50 à 70% de ce qu'ils consommaient avant, et le reste, il y aura des prix qui vont flamber. Et donc, c'est un sorte de rationnement avec des primes non linéaires, mais malheureusement ça va être des éléments
horribles
qu'il faut avoir en tête. Oui, mais il faut l'avoir en tête, me semble-t-il, pour un peu comprendre dans quel monde on va vivre demain, et pourquoi pas aussi pour la transition écologique.
Sobriété.
On va parler de sobriété, ce serait peut-être un peu plus joli que rationnement, effectivement.
Ouais. Allez, pour vous remonter le moral, je vais vous donner le top 3, les performances des 3 meilleurs gérants de la semaine. Allez, on y va, ça va. Alors là, ça a tout pété. Pierre Chang, moins 2,8%. François Chollet, moins 4,4%. Émeric Préaubert, moins 5%. Bon, les performances sont tout simplement catastrophiques. Allez, Louis De Fels, on prend votre portefeuille, vous me dites ce qu'on garde et ce qu'on vend. On a du Samsung.
On garde.
On a du Vetoquinol.
Aussi.
On a du Roberté.
Magnifique.
On a du, il est très content, il aime son portefeuille. On a du, les deux OPA là. Vous nous avez dit qu'on l'a, on les a pas en portefeuille.
Parce que c'est des titres très peu liquides, ça faisait même pas.
Donc les bonnes affaires, vous les gardez pour vous, et nous, vous nous dites des trucs. Bon, Pharmagest Interactive.
Ouais, toujours.
On regarde, fabuleux ça.
Fabuleux.
Argan, génial.
Ouais.
Infotel, fabuleux.
Toujours.
Neurone, exceptionnel.
Il n'y a que de l'informatique, mais c'est une belle
OB, extraordinaire.
Ouais.
D'accord.
Je suis un peu Eric, c'est service informatique. Il y a eu beaucoup d'OPA, il y a eu sur Devoteam, il y en a eu plusieurs. Et c'est un secteur, je pense, que ça va finir à arriver, des belles sociétés comme S2I, Neurone, OB. Un jour, l'âge du capitaine est assez avancé. Quand je dis un jour, c'est pas demain, c'est dans les 3-4 prochaines années. C'est des sociétés qui sortiront malheureusement un jour de la bourse. Mais or ça reste des super
sociétés. Alors attends, vous dites malheureusement, Eric dit que c'est...
Vous essayez de nous mettre en contradiction.
Oui.
Moi je dis heureusement il y a des belles opérations pour les actionnaires qui peuvent gagner de l'argent, mais malheureusement la cote s'appauvrit. C'est un raisonnement à double détente quand même.
Oui, mais moi je sais pas ça.
Des sociétés comme Neurone, ça fait 26 ans de croissance organique positive, même pendant le Covid ils l'ont fait. Ça génère plus de 50 millions de cash net par an. Donc le problème c'est
qu'il va sortir de la cote de Chamard.
J'espère pas, notre ami Luc. J'espère clairement pas. En tout cas il n'a pas cet objectif aujourd'hui, mais dans quel endroit, c'est vrai qu'il y a peu d'IPO, donc d'introduction en bourse, c'est vrai que c'est assez compliqué, donc la cote s'appauvrit, et en tout cas vous pouvez compter sur nous pour quand il y a des OPA au rabais. Maintenant il y a des nouveaux trucs, vous avez vu, maintenant pour que les OPA réussissent, ils font une surprime, c'est-à-dire que s'il y a plus de 90% pour Generics et même pour Cast, ils rajoutent petit bonus. Oui, je pense que c'est assez malin, c'est assez nouveau, et je sais pas qui a pu conseiller ça, mais c'est
une bonne idée. Et donc vous dites que Luc de Chamard, il va manger son nœud papillon et sortir de bourse. C'est ça?
Non, j'ai dit. Non, je sais pas, dans les 5-10 prochaines années.
Eric Lewis,
il n'a pas, pas de conseil?
Si,
évidemment. Ah, conseil. Si, conseil, pardon.
Vous voyez que je suis sympa. Allez-y.
Freelance.com. Voilà, Freelance.com, c'est donc c'est un peu comme des CS2I. C'est des sociétés, donc des consultants qui vont arriver. Mais la différence, c'est qu'ils ne vont pas être salariés. Ça va être vraiment des freelanceurs. Et ça, je pense que post-Covid, les gens adorent avoir leur liberté. Et donc, c'est quelque chose qui va vraiment très, très mort, très fort en ce moment.
C'est la gig économie.
C'est la gig économie, ça marche très bien. Donc, quel est le business model de freelance? Donc, c'est vous qui allez directement donc, dans les grands groupes du CAC 40. Vous êtes comme une SS2I, sauf que là, vous décidez vous-même. Donc là, vous gardez 80% du chiffre d'affaires pour vous, 10% souvent pour la société qui vous a conseillé, et 10% pour freelance.com. Surtout que freelance.com, ce qui est génial, c'est que quand, avec mot-clé sur Google, ça va automatiquement, quand quelqu'un va sur freelance, vous arrivez sans référencement en haut de la page web. Donc c'est une société qui est en très forte croissance, ils ont encore fait 24% de croissance organique au premier trimestre, ils font des acquisitions en plus, c'est une société qui connaît un super parcours, elle a à peine baissé, elle a pas trop baissé malheureusement, parce qu'elle est assez décorrélée, donc c'est une superbe société à avoir en fond de portefeuille.
Ils vont sortir de bourse aussi?
Peut-être un jour aussi.
Eric Lewin, je donne vos positions, vous me dites ce qu'on fait. On a du Atos, on a du Reward Media, on a du Elis, on a du Fnac Darty, on a du Genoway, on a du Claranova, on a du L'Oréal, on a du Blockchain Group, on a du Alten. Qu'est-ce qu'on achète? Bon, on vend rien là, j'imagine. Non. Tout est fabuleux.
Tout est merdique, oui.
Ok.
Bon, non, mais il faut le dire.
Quand c'est
merdique, c'est merdique. On achète du Twax qui font ce qu'on appelle de l'allocation de barges fluviales ou des containers. C'est un groupe qui a fait plus de 50% de croissance au premier trimestre en termes de chiffre d'affaires, qui est ultra rentable. Ça doit faire 160 millions de chiffre d'affaires en termes de marge d'EBITDA. Ça doit faire 30%. Marge d'exploitation, ça fait 18%. Ils ont un actif net de 11,70 € par action. Ça vaut 8 euros. Et les PE ne sont pas très élevés puisque ça doit être un PE de 8, une valeur d'entreprise rapportée au résultat opérationnel courant de 6. Le seul petit hic, c'est pour ça que la valeur n'explose pas, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'OPA parce que c'est comme Michelin, un statut de commandite par action.
Ah, ça existe encore? Ça, ouais, y en a très, encore très peu. Il y en a encore.
Ouais, il doit y avoir de l'Hermès encore, il doit y avoir de l'Hermès, du Michelin. Il y avait Feu Lagardère, ouais. Hermès, Michelin, et donc Twax, c'est une commandite. Donc il n'y aura pas d'OPA, mais c'est un titre qui peut gagner facilement 30 à 40% sur le marché.
Vos plus grosses positions dans vos fonds aujourd'hui, je crois que c'est public, vous pouvez le dire, c'est quoi vos principales lignes?
En principale ligne, c'est de Robertet. Voilà, Robertet, c'est...
Donc c'est au moins on l'a en portefeuille. Non, je vérifie juste que c'est pas des trucs...
Non, c'est des valeurs qu'on a en portefeuille. Robertet, Neurone, voilà, c'est 20 ans de croissance organique positive. La famille Robertet, donc à Grasse, vous savez, c'est le leader des fragrances naturelles. Dernier acteur indépendant coté. Cinquième génération, la famille Maubert. Donc c'est extrêmement bien géré. Ils viennent de refaire des acquisitions ciblées. Maintenant, ils font plus de 25% de leur chiffre d'affaires quasiment en Asie. Donc leader dans toutes ces sociétés. Neurone, on a parlé tout à l'heure. Veto Kinol aussi, une principale position.
Eric Lewin, les OPA, c'est une stratégie, ça peut être une thématique d'investissement, c'est-à-dire de se dire, essayez de lister, vous une liste.
Moi, la lettre qui cartonne le plus chez Agora, c'est la lettre sur les OPA.
D'accord.
On essaye de lister les prochaines OPA sur la côte, évidemment.
Vous avez réussi à en trouver une ?
Ouais, j'en ai trouvé pas mal.
Ouais, par exemple.
Moi, j'avais fait Artefact, j'avais fait Group Open, j'avais fait Devotim, ouais, pas tous, mais.
Et là, les prochaines, c'est quoi ?
Bon, je suis assez d'accord avec Louis, je pense que dans le secteur informatique ça va continuer. Moi j'aime bien des boîtes par exemple comme IT-Link, petite société informatique peu connue. Je pense que sur la FNAC il peut se passer quelque chose parce que le groupe est bien géré mais ça décolle pas et puis on sent qu'il y a des actionnaires autour. Je pense que sur Maison du Monde, c'est une très belle enseigne, il peut aussi se passer quelque chose. Bref.
Donc il y aura des sujets.
Ah ben il y aura bien sûr qu'il y a des sujets, il y a toujours des sujets.
C'est sur le sujet d'Opéra, il y a une valeur, même si on est spécialisé sur les small et mid cap, nous dans notre fonds flexible, notre première ligne c'est Vivendi. Donc d'accord. Ça voulait me dire pourquoi, parce que c'est vrai qu'en ce moment c'est plutôt value. Qualité, maintenant c'est vraiment Canal+, l'actif le plus important. Et vous savez qu'il y a Bolloré qui se renforce toujours fortement dans Vivendi dès qu'elle passe sous les 11 euros. Donc là, je crois qu'aujourd'hui elle était encore furtivement sous les 11 euros. Donc j'invite vos auditeurs qui nous écoutent, dès que Vivendi revient sous les 11 euros, vous avez l'actionnaire principal qui arrive. Les statuts ont changé. Et on n'est pas à l'abri d'une OPA par monsieur Bolloré.
Et dès qu'on achète, on a une photo de Bolloré avec une dédicace. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous nos invités. C'était très intéressant. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous dire qu'elle sera exceptionnelle. Surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter, nous voir ou revoir en replay et podcast sur RMC, BFM, Play et toutes les plateformes de podcast. Et ça cartonne en podcast.